vendredi 1er mars 2019. 1er mars, ici le quotidien des quotidiens, votre revue de presse. Plein de choses dans l'actualité. Aujourd'hui, on parlera évidemment de l'affaire la SNC-Lavalin, Jody Wilson-Raybould. C'est inévitable. On parlera également de racisme, ce petit racisme ordinaire qui fait mal aux enfants. On parlera d'environnement, si on peut, si on a le temps. On parlera même du 8 mars, tiens, dans la possibilité de... Voilà, donc une actualité très, très chargée. Avec vous pour la présenter dans les 90 prochaines minutes, François Brodeur en remplacement d'Hélène Denis pour une dernière journée, puisque Hélène revient lundi. Elle doit revenir lundi. Mais je ne suis pas seul. L'aspect historique de cette émission étant l'affaire de Mathieu Tessier ce matin. Mathieu, qu'est-ce qui s'est passé un 1er mars au travers de l'histoire?
Aujourd'hui, 1er mars, nous sommes la journée mondiale de la protection civile ainsi que la journée mondiale du compliment.
Ah!
Mon cher François.
Ouais, bon, il faut rester crédible.
Oui, ben c'est pour ça, vous voyez, je me suis arrêté dans ce forêt. 15 mars. 1565, 1er mars, c'est la fondation de la colonie portugaise de Rio de Janeiro, au Brésil. Nommé gouverneur de la Nouvelle-France, Samuel de Champlain est le premier à occuper ce poste en 1632. En 1780, la Pennsylvanie mm-hmm. est le premier État américain à légiférer pour abolir l'esclavage. Honoré Beaugrand, quant à lui, en 1886, est élu maire de Montréal. 1916, un incendie détruit la gare Bonaventure à Montréal. 1927, par un jugement du Conseil privé de Londres, le Labrador est attribué à Terre-Neuve, une décision que le Québec contestera. 1er mars 1929, premier courrier aérien entre Montréal et Vancouver. 1965, l'explosion d'un édifice à logement à La Salle sur l'île de Montréal fait malheureusement 28 morts. 1976, vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman.
Mm-hmm.
Avec Jack Nicholson.
C'était excellent.
Effectivement. Là-dedans. 1er mars 1989, devant la commission Dublin. L'entraîneur Charles Francis admet que Ben Johnson et d'autres athlètes prenaient des stéroïdes depuis 1981. À la haie, en 1996, Marc Gagnon de Chicoutimi améliore le record mondial au 1500 en patinage de vitesse sur courte piste. Et atteignant 1,02 milliard d'habitants, l'Inde devient le premier pays après la Chine à avoir franchi ce seuil. C'était en 2001. Et pour ce qui est des naissances, nous avons Frédéric Chopin, le compositeur polonais, qui est né en 1810, et Glenn Miller, le jazzman américain, qui est né aussi un 1er mars 1904.
Merci beaucoup. On commence immédiatement avec la presse où il y a des tonnes de nouvelles aujourd'hui dans tous les sens concernant tous les sujets. Il y en a une que je veux vous lire tout de suite de peur de l'oublier, voyez-vous. On le sait, le gouvernement caquiste fait de la maternelle 4 ans le cheval de bataille de sa réforme en éducation. Un texte sorti aujourd'hui paru sous la plume d'Hugo Giguère, Jean-Philippe Anger. La garderie n'améliore pas le développement cognitif. La fréquentation d'un service de garde avant d'entrer à la maternelle n'aurait aucun impact sur le développement cognitif et langagier des enfants. D'après une analyse de l'Institut de la statistique du Québec, mais un groupe de réflexion prévient que le constat pourrait être surtout celui de l'importance de la qualité des services. Selon l'enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017 publiée jeudi, la fréquentation ou non d'un service de garde n'aurait aucun impact significatif sur le développement cognitif et langagier, de même que sur la santé physique et le bien-être des enfants. Les chiffres indiquent que les enfants qui ont été gardés sont tout de même moins susceptibles d'être vulnérables dans le domaine des habiletés de communication et de connaissances générales. Ces mêmes enfants sont toutefois plus susceptibles d'être considérés comme vulnérables en matière de compétences sociales et de maturité affective que ceux qui restent à la maison. Des variables précises sont cependant très importantes à considérer dans le cas des enfants qui sont confiés à un service de garde. La précocité, la fréquence et la stabilité du milieu peuvent influencer le risque de vulnérabilité des tout-petits. D'après l'enquête statistique, plus un enfant commence à se faire garder tôt et plus ce milieu est stable, moins il risque d'être considéré vulnérable en toute matière. En contrepartie, si un enfant est gardé durant 45 heures et plus chaque semaine, son risque de vulnérabilité augmente. En réaction à cette étude, l'Observatoire des tout-petits souhaite surtout rappeler l'importance de la qualité dans tous les types de services de garde éducatifs pour le bon développement des tout-petits. En entrevue, la directrice de l'Observatoire des tout-petits, Fanny Dagenais, a souligné qu'un constat de l'enquête pouvait sembler un peu surprenant et l'absence d'un effet protecteur documenté par les études antérieures. Mais selon Mme Dagenais, cet effet protecteur est présent lorsque la qualité des services est au rendez-vous. L'Institut de la statistique met en garde que ce sont d'abord et avant tout les caractéristiques démographiques et socio-économiques qui ont le plus grave impact sur le risque de vulnérabilité des enfants. Par ailleurs, les enfants qui ont bénéficié régulièrement de services de garde avant leur entrée à la maternelle sont plus susceptibles de vivre dans une famille bien nantie et d'avoir des parents scolarisés. Un truc que je vous rapporte brièvement, puisque le titre de la presse m'a beaucoup fait sourire ce matin. Trump, Kim, sanctions et armes de destruction massive ont fait achopper les discussions. On savait que le président Trump et son homologue nord-coréen se rencontraient à Hanoï justement pour régler ces deux questions-là. Or, il semble que c'est ce qui a fait achopper la rencontre finalement. Bon, toute la semaine, je vous ai parlé de rougeole parce que, et honnêtement, vous me le pardonnerez, je pète ma coche quand je vois ce qu'on dit des vaccins un peu partout sur Internet. Il semblerait que je ne sois pas le seul. Ariane Kroll en a fait un éditorial dans la presse. À quand un vaccin contre la désinformation? La rougeole est de retour. Encore? Eh oui! Après quelques malheureux épisodes au Québec, c'est Vancouver qui en a fait la cuisante expérience. Cette maladie extrêmement contagieuse se répand facilement dans une population non immunisée. Mettre au point un vaccin efficace et l'offrir gratuitement ne suffit plus. Désormais, il faut aussi convaincre les parents de l'adopter, un défi qui va nécessiter une bonne dose d'inventivité. À Vancouver, la rougeole s'est déclarée dans 3 écoles après qu'un enfant non vacciné l'ayant attrapé en voyage au Vietnam l'a transmis à ses 2 frères. Des éclosions ont aussi été recensées aux États-Unis depuis le début de l'année. L'une d'elles s'est produite dans des communautés juives orthodoxes de New York après qu'un enfant non immunisé a contracté la maladie en Israël. Une 60aine de cas concernant des enfants non vaccinés pour la plupart ont aussi été diagnostiqués dans l'État de Washington. L'histoire se répète. Au Canada comme aux États-Unis, la rougeole est considérée comme éliminée depuis une 20aine d'années. Les éclosions démarrent donc généralement avec une souche ramenée de l'étranger et se répandent grâce à des véhicules accueillants, c'est-à-dire des personnes nées après 1970 qui n'ont pas reçu le vaccin combiné contre la rougeole, la rubéole et les oreillons, le RRO. On l'a vu au Québec avec la dernière éclosion en 2015 dans la Naudière. Le patient initial avait attrapé la rougeole en Californie et la quasi-totalité des cas, 146 sur 159, ont été recensés dans une communauté religieuse opposée à la vaccination dont la plupart des membres n'étaient effectivement pas immunisés. Il n'y a pas eu de mort, mais 8% des malades ont dû être hospitalisés et certains ont souffert de complications, pneumonie, bronchite, otite moyenne. Sans oublier la toux et les éruptions cutanées généralisées que toutes les personnes infectées ont dû endurer, ainsi que les conjonctivites et les pharyngites subies par plus des 3/4 d'entre elles. C'est d'autant plus choquant qu'avec l'efficacité du vaccin, la quasi-totalité de ces maux aurait facilement pu être évitée à la fois aux parents et au système de santé. En effet, au moins 95% des individus ayant reçu les 2 doses du vaccin recommandées sont considérés comme protégés de la contagion. Ces éclosions évitables sont d'autant plus préoccupantes que la rougeole peut avoir des conséquences encore plus graves, dont l'encéphalite, la cécité et même la mort. Ces complications sont rares, mais pour les groupes plus à risque, bébés de moins d'un an, personnes dont le système immunitaire est affaibli, c'est une réelle inquiétude. La seule protection sur laquelle ils peuvent compter, c'est celle que la population se donne en optant très largement pour l'immunisation. Mais comment y parvenir alors que tant de parents hésitent à faire vacciner leur enfant? Rendre la vaccination obligatoire pour les écoliers du primaire et les élèves du secondaire, comme l'a fait l'Ontario, est une idée qui peut paraître séduisante, mais dont on voit rapidement les limites, puisqu'il existe des exemptions pour motifs de conscience ou de croyances religieuses. Cette vaccination obligatoire n'aurait donc pas permis d'éviter l'éclosion de 2015 dans la Naudière. La vaccination obligatoire a même des effets pervers, car elle contribue à alimenter le discours anti-vaccin. Certes, la majorité des parents réticents à faire immuniser leurs enfants en bas âge ne sont pas des idéologues militants, mais en cliquant « j'aime » sur le matériel douteux qui abonde sur le web et en le faisant circuler sur les réseaux sociaux, ils augmentent la visibilité et l'impact de ces faussetés. Et comme si ce n'était pas assez, eh bien l'OMS elle-même, l'Organisation mondiale de la santé, lance un cri d'alarme sur la résurgence de cette maladie qu'on croyait vraiment vaincue. Pardon, je viens de dire l'OMS, c'était plutôt l'UNICEF, alors je me corrige, voilà. Puisqu'on en est au registre des maladies, il y en a une, c'est la toute première fois que ça arrive au Québec, et je vous en parle pour ça, un premier Québécois a été atteint d'échinococcose alvéolaire, et vous me dites, mais qu'est-ce que c'est que l'échinococcose alvéolaire? Eh bien, c'est une maladie qui est courante chez les canidés, particulièrement les canidés sauvages comme le renard, le coyote, le loup. Les chiens peuvent l'apporter aussi. C'est un parasite qu'on attrape en mangeant des œufs qui se déposent dans les selles de ces chiens-là. Et il y a un premier enfant au Québec qui en a été atteint. Il a fallu faire valider le diagnostic et le traitement en France parce que c'était la toute première fois qu'on voyait ça chez nous. Une autre, brièvement, les chasseurs australiens, les CF-18, en fait les F-18 qu'on va acheter à l'Australie pour compléter la flotte canadienne qui vieillit de plus en plus, vont probablement coûter 200 millions de dollars de plus que les 880 quelques millions annoncés. Libertion m'en parlait dans la presse canadienne. Le directeur parlementaire du budget, lui, la trouve pas tellement drôle puisqu'il se dit que les 200 millions en question auraient pu être et auraient dû être planifiés, d'autant qu'on connaît bien ces avions-là au Canada. On les fait voler depuis pas loin de 30 ans. La presse canadienne, elle, s'est aussi intéressée aux détenus âgés qui sont laissés pour compte au pays. Selon l'Ombudsman des pénitenciers au Canada, des détenus âgés et de longue date sont entreposés dans des prisons qui ne sont pas équipées pour gérer les soins de fin de vie. L'enquêteur correctionnel du Canada, Ivan Zinger, et la présidente de la Commission canadienne des droits de la personne, Marie-Claude Landry, demandent au Service correctionnel du Canada de répondre aux besoins et aux droits uniques des personnes âgées derrière les barreaux dont le nombre augmente, nécessitant aussi des coûts additionnels pour le gouvernement. Les deux organes ont déclaré que le pays avait besoin d'une stratégie nationale pour prendre en charge les besoins de personnes de plus de 50 ans en détention fédérale. Dans un nouveau rapport publié jeudi, ils disent que le service correctionnel devrait trouver des moyens de libérer les détenus plus âgés qui ne représentent aucun risque raisonnable pour la sécurité publique dans la collectivité, dans un établissement de soins de longue durée ou dans un centre de soins palliatifs. De nombreux détenus âgés restent en prison bien au-delà de leur date d'admissibilité à la libération conditionnelle, même s'ils ont achevé la quasi-totalité de leur plan correctionnel et ne présentent que peu de risques pour le public, indique le rapport. Les détenus âgés de 50 ans ou plus représentent le quart de la population carcérale dans les établissements fédéraux, leur nombre ayant augmenté de 50 % au cours de la dernière année. Tout le monde au Canada, y compris les personnes sous garde fédérale, a le droit de finir ses jours dans la dignité et en sécurité. Les prisons n'ont pas ce qu'il faut pour donner des soins de fin de vie. Le service correctionnel du Canada doit faire plus pour faire en sorte que les personnes détenues puissent retourner en société et recevoir des soins de fin de vie, empreintes d'humanité et de dignité, a affirmé Mme Landry dans un communiqué. Un mot en terminant avec la presse pour vous parler de Tout le monde en parle. J'aime bien Tout le monde en parle parce qu'effectivement, ça place la table pour la semaine qui vient, puis tout le monde fait de la vérification de fait. Donc, Marie-Ève Moras s'est demandé s'il manquait d'enseignants au Québec, comme ça avait été nié par le ministre de l'Éducation sur le plateau de Tout le monde en parle. La réponse est oui, les directeurs se cassent la tête un peu partout pour remplir leur cadre.
ta robe de chambre en fil, ton jeans qui t'allonge la jambe. All right, j'te veux à ton best. Ouh! J't'emmène au casse-croûte pour un ketchup pognon chou, puis après j't'emmène au vu voir un film d'amour. That's it. Je sais ce qui te plaît. Oh, a baby, I swear. J'te gâte all dressed. Ouh, a baby, I swear. J'te gâte all dressed.
Dans la catégorie, il faut parfois se gâter soi-même. C'était Blue Jeans Bleu. C'était Je te gâte. All dress, pardon.
Merci beaucoup, Mathieu. On passe sans attendre aux pages du devoir en commençant comme il se doit par la caricature de Garnotte. On y voit un Justin Trudeau songeur attablé devant une console de l'Agence spatiale canadienne en train de contempler un projet canadien sur la Lune. Et les chercheurs derrière se disent « C'est bien de voir le premier ministre rêver à toutes les possibilités que ça ouvre pour le Canada. » Or, si on pouvait rentrer dans le rêve de Justin Trudeau, on s'apercevrait qu'il y a une astronaute qui est en dérive après que son câble se soit cassé. Et c'est Jody Wilson-Raybould. Un peu partout dans les journaux francophones du Québec aujourd'hui, il y avait un leitmotiv qui revenait parmi les chroniqueurs et les éditorialistes à propos de l'affaire Lavalin. Parce qu'il y a une question à laquelle Jody Wilson-Raybould n'a pas répondu. C'est pourquoi on n'accordait pas à Lavalin ses 3000 quelques emplois au Québec et les 9000 au Canada et les 50 000 à travers le monde, le privilège qu'on accorde généralement aux grandes sociétés concurrentes à travers le monde, à savoir pouvoir négocier une grosse amende, un protocole de contrôle, plutôt que d'être condamné au pénal et éventuellement exclu des appels d'offres, ce qui réduirait les chiffres d'affaires. Bon, il y en a un qui dit « il est probable que la ministre de la Justice a des informations que je n'ai pas ». Robert Dutrisac, lui, est un peu plus tranché dans le devoir. Le témoignage de l'ex-procureur général Jody Wilson-Raybould n'a pas permis de lever le voile sur une question fondamentale concernant l'affaire SNC-Lavalin. Pourquoi diable la directrice des poursuites pénales, Kathleen Roussel, a-t-elle refusé d'entamer des négociations avec ce fleuron mondial de l'ingénierie en vue d'un accord de réparation comme le lui permettait une nouvelle disposition du Code criminel? Mercredi, l'ex-procureur général a refusé de dévoiler les motifs du service des poursuites pénales du Canada sous prétexte que l'affaire est devant les tribunaux. En effet, en octobre dernier, SNC-Lavalin a demandé une révision judiciaire de la décision devant la Cour fédérale. Si le grand public ne connaît pas les raisons de ce refus, la firme d'ingénierie non plus. Dans sa requête, SNC-Lavalin indique que la lettre du SPPC qui confirme sa décision ne donne aucune raison expliquant qu'il n'est pas approprié de négocier un accord de réparation avec la firme qui est accusée de corruption relativement à ses activités en Libye. La nouvelle disposition du Code criminel permet à une firme accusée au criminel d'éviter un procès si elle reconnaît ses fautes, prend toutes les mesures nécessaires pour que la situation ne puisse se reproduire et s'acquitte d'amendes substantielles. Il en va de l'intérêt public puisqu'on protège ainsi des employés, des actionnaires et des fournisseurs qui n'ont rien à voir avec les actes répréhensibles commis par d'anciens dirigeants qui, eux, font face à la justice, ou plutôt devraient y faire face, puisque je commente ici pour dire que la plupart des poursuites ont été abandonnées contre les cadres de SNC surpris en flagrant délit de corruption. Si on ne peut les excuser, les faits reprochés à SNC-Lavalin n'ont rien d'exceptionnel. Toutes les grandes multinationales en infrastructure ont versé des bakchiches à des potentats pour obtenir des contrats. Que ce soit les États-Unis, le Royaume-Uni, la France ou l'Allemagne, tous ces pays ont conclu des accords de réparation avec leurs grandes firmes qui ont trempé dans des magouilles. Au Canada anglais, on semble vouloir en finir avec SNC-Lavalin, oubliant sans doute que la multinationale compte 9000 employés au pays, dont une majorité à l'extérieur du Québec. Or, le gouvernement Trudeau a raison de considérer qu'il est dans l'intérêt public d'éviter à la firme un long procès au terme duquel elle risque de perdre pendant 10 ans la possibilité d'obtenir des contrats fédéraux. Heureusement, SNC-Lavalin est protégée pour l'heure contre une prise de contrôle grâce à la minorité de blocage que détient la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Qu'on cesse toutefois de s'acharner contre elle, comme le font avec légèreté Andrew Scheer et Jacques Metzing. Le 8 mars s'en vient et je profite de l'aspect économique de cette émission pour vous parler de l'apport des femmes. En fait, c'est Éric Desrosiers qui signe un texte sur le sujet. Libérer le potentiel économique féminin. Des experts disaient depuis quelques années qu'une meilleure place faite aux femmes dans l'économie avait le pouvoir de générer une prospérité plus grande et plus durable. Les plus récentes recherches laissent entendre qu'ils avaient sous-estimé ce pouvoir. Si les hasards de la vie vous propulsaient au rang de ministre de l'économie quelque part dans le monde et que quelqu'un vous arrivait un jour en vous disant qu'il savait comment augmenter votre produit intérieur brut de 35%, parions que vous vous arrêteriez pour écouter. Le petit malin en question pourrait être l'un des experts qui ont contribué à un dossier dévoilé jeudi par le Fonds monétaire international sur les femmes et la croissance économique. Pour réaliser le progrès économique extraordinaire qu'il vous ferait miroiter, il faudrait que vous parveniez à combler l'écart qu'accusent les femmes en matière d'emploi et que votre pays compte parmi la moitié la plus en retard en la matière dans le monde. Bien que moins spectaculaire, le gain potentiel s'élèverait tout de même à 10% en moyenne dans les pays développés. Les principaux facteurs en jeu sont désormais bien connus, à commencer par le taux de participation. En moyenne, seulement la moitié des femmes en âge de travailler occupent effectivement un emploi dans le monde contre 80% des hommes. Pour des économistes, c'est un terrible gaspillage de main-d'œuvre. Il y a aussi les inégalités salariales qui font que, à l'emploi et à compétences égaux, les femmes gagnent en moyenne 25% de moins que les hommes, réduisant d'autant le pouvoir d'achat des travailleuses. Les femmes sont également surreprésentées dans les secteurs économiques informels ou aux conditions de travail plus précaires et continuent d'assumer une part disproportionnellement plus grande des tâches non rémunérées comme s'occuper des enfants et des parents vieillissants. Bien qu'ils comptent pour environ les 4/5 du manque à gagner, ces facteurs ne sont pas les seuls à peser sur la croissance économique, poursuivent nos experts du FMI. On réalise de plus que les femmes ne constituent pas seulement une main-d'œuvre sous-utilisée et sous-rémunérée, mais aussi différente. Que ce soit pour des raisons culturelles ou innées, les femmes tendent notamment à se montrer plus prudentes face aux risques et plus portées à la coopération que les hommes, observe-t-on. Ces qualités se révèlent précieuses en soi, notamment chez les dirigeants d'entreprise et les membres de conseils d'administration, et particulièrement dans les secteurs de haute technologie et des services à forte composante de savoir. Les entreprises présentant une plus forte proportion de femmes à leur tête affichent des rendements à long terme de 36 % supérieurs en bourse, estime la firme d'analyse State Street dans le secteur financier. On reconnaît ces chefs de file par leurs réserves de liquidités plus importantes, leur plus faible proportion de prêts non rentables et leur plus grande capacité de résistance au choc. Bref, si vous voulez éviter une crise, il faudrait peut-être remplacer les banquiers par des banquières. Isabelle Porter à Québec nous parle de la réaction du gouvernement Legault au jugement qui le force donc à procéder à l'étude des 18 000 dossiers éliminés. Québec donnera priorité à ceux qui sont déjà au Québec en matière d'immigration. Le gouvernement Legault s'est engagé jeudi à donner un traitement spécial au dossier des candidats qui vivent déjà au Québec parmi les 18 000 qui ont été annulés. Ces personnes seront invitées avant les autres à postuler dans le nouveau système d'immigration ARIMA, promettons. Les 3 700 peuvent être priorisés une fois que notre projet de loi a été adopté, a expliqué le premier ministre Legault à la sortie de la période de questions jeudi. On veut se concentrer sur les personnes qui correspondent aux besoins du marché du travail. Concrètement, cela veut dire qu'ils seront les premiers à recevoir une invitation dans le cadre du système de déclaration d'intérêt ARIMA. Et c'est extrêmement inquiétant puisque le jugement ne disait pas « inscrivez-les en premier dans ARIMA ». Le jugement rendu en injonction provisoire disait « analysez leur dossier » parce que l'ancienne loi est toujours en place. Environnement, Pauline Gravel nous rapporte, c'est d'ailleurs le titre de son texte, « La pêche souffre du réchauffement des océans ». Il ne s'agit plus seulement d'hypothèses ni de prédictions. Selon une étude parue dans la revue Science, les changements climatiques ont déjà affecté la productivité des ressources halieutiques à travers le monde, et ce, en grande partie négativement, entraînant un déclin qui atteint 35 % dans certaines régions. Ceci dit, il y a quand même des gagnants, notamment la côte du Labrador et du nord du fleuve Saint-Laurent, puisque la morue pourrait revenir à la faveur d'une eau un peu plus chaude. On se quitte immédiatement pour une courte pause et on revient avec le Journal de Montréal. Time is running.
De son plus récent album, Frédéric Garicomo, I'll Give You the Floor.
Et on attaque sans plus tarder le journal de Montréal, dont la une nous parlait d'un pasteur aux étranges pratiques, Antoine Lacroix, un pasteur accusé de sévices. Un pasteur de la rive sud de Montréal et son épouse seront accusés ce matin d'avoir infligé des châtiments corporels à coups de bâton à des enfants, en plus d'avoir encouragé pendant 4 décennies leurs fidèles à faire de même. Mario Monette et sa femme Carole Van Houtte, tous deux âgés de 65 ans, ont été arrêtés jeudi par le service de police de l'agglomération de Longueuil, le SPAL, après une enquête de plus d'un an. Ils avaient un contrôle psychologique important sur les gens qui fréquentaient leur église. L'influence de ces prêches, où on mettait de l'avant de corriger les enfants, faisait en sorte que certains fidèles auraient posé des agressions armées. Ça peut être avec un bâton ou une règle, par exemple, a expliqué Jean-Pierre Voutinos, porte-parole du SPAL. Vendredi, le couple comparaîtra au palais de justice de Longueuil et fera face à un total de 32 chefs d'accusation, notamment d'agression armée, de voies de fait, d'avoir infligé des lésions corporelles, de menaces, de séquestration et d'incitation à commettre un acte criminel. Les accusations concernent 8 victimes qui étaient toutes mineures au moment des gestes allégués entre 1974 et 2019. Mario Monette et sa femme, Carole Van Houtte, étaient à la tête de l'Église biblique baptiste métropolitaine sud, située sur la rue Mountain View dans le secteur Saint-Hubert, depuis 1982. Monette dirigeait l'Église biblique baptiste métropolitaine sud dans ce secteur. Sur son site Internet, on décrit l'endroit comme étant une église indépendante, fondamentale, gagneuse d'âmes, où l'on désire combler les besoins de chacun. Les classes ont pour objectif d'enseigner les jeunes dans les voies du Seigneur, de suivre leur progression, tout en communiquant aux parents les éléments pertinents qui peuvent contribuer à la croissance spirituelle de leurs enfants, peut-on lire dans la section dédiée à la jeunesse. On y fait valoir que le Seigneur a utilisé le pasteur Monette de façon grandiose à Saint-Hubert. Il a aussi effectué des voyages missionnaires un peu partout dans le monde, dit-on sur le site. L'enquête, rapporte-t-on, a été difficile, mais bon, on verra la suite au moment des audiences. Tiens, avec la rougeole, j'ai l'impression que je vous ai aussi parlé des motoneigistes toute la semaine parce qu'il y a eu plusieurs incidents mortels. Eh bien, on en a réchappé un. Alors, je suis tout fier de vous en parler. C'est Arnaud Koenig-Soutière qui le rapporte dans le Journal de Montréal. Un motoneigiste rescapé in extremis à Jonquière. Un motoneigiste dans la trentaine a été sauvé in extremis au beau milieu de la nuit de jeudi à vendredi, lui qui a été retrouvé alors qu'il gisait gravement blessé dans le fossé d'un sentier. L'homme a été aperçu par un autre motoneigiste peu avant 2h30 en bordure du sentier 83 près du chemin Saint-Damien. Le blessé de 38 ans a été évacué par les pompiers de Jonquière, puis il a été transporté aussitôt au département de traumatologie de l'hôpital de Chicoutimi. Des fractures aux deux jambes et une hémorragie interne importante affligeaient le motoneigiste, qui souffre aussi d'hypothermie. Le mercure était sous les moins 20 degrés Celsius lorsqu'il a été rescapé. Il n'y a pas nécessairement risque de décès, même si ses blessures sont assez importantes, a rassuré le porte-parole de la police de Saguenay, Denis Harvey. Les circonstances de l'incident sont inconnues, mis à part que l'alcool ne serait pas en cause, selon M. Harvey. Et c'est quand même une bonne nouvelle, mais l'annoncer comme ça, c'est un peu étrange. La chronique de Lise Ravary porte elle aussi sur Justin Trudeau, donc Justin dans l'eau bouillante. À peu près personne ne l'admettra, mais bien des gens face à un événement fortuit espèrent secrètement le pire. Il va pleuvoir, vivement une inondation. Les gilets jaunes manifestent, vivement la révolution. Le psychologue américain de l'Université Ohio State, John T. Cacioppo, expliquait dans la revue Psychology Today que notre cerveau est plus sensible aux informations négatives qu'aux bonnes nouvelles pour qu'il nous soit impossible de ne pas voir le danger, pour l'éviter. Je me demande combien de Canadiens qui ont écouté hier les explications de l'ancienne ministre de la Justice et ex-procureur général du Canada, Jody Wilson-Raybould, au sujet du SNC-Lavalin Gate, espérait voir le premier ministre Trudeau manger une volée. Elle ne l'a pas raté. Elle a raconté que lui et son entourage avaient déployé des efforts constants et soutenus, voire proféré des menaces voilées pour épargner un procès criminel à l'entreprise dans le but d'être réélu au Québec. Si SNC-Lavalin est trouvé coupable, on ne donnera pas cher de la plus importante firme d'ingénierie au pays avec ses 9 000 employés et 50 000 autres à travers le monde. Elle sera vendue à des intérêts étrangers ou démantelée. Le gouvernement aurait souhaité qu'on permette à SNC-Lavalin de conclure un accord de réparation, payer une gigantesque amende, se réorganiser et accepter d'être surveillé. Une procédure 100% légale utilisée partout qui aurait dû s'appliquer dans le cas de SNC-Lavalin, croit Terence Corcoran, le doyen des chroniqueurs d'affaires de Toronto. Ils auraient pu prendre exemple sur Siemens. L'Allemagne, elle, a protégé son fleuron d'ingénierie. Ailleurs dans le monde, les entreprises sont rarement poursuivies aux criminels dans des affaires de corruption. Coincés dans des affaires de corruption massive, Walmart, Siemens, Petrobras et Alstom ont payé des milliards en réparations pour éviter les tribunaux. Siemens, pour qui la corruption était devenue une seconde nature, a dû verser 1,6 milliard en réparations dans les années 2000. Siemens comptait alors 475 000 employés. Imaginez la fermeture! Malheureusement, le cœur de l'affaire SNC-Lavalin nous échappe toujours. Mme Wilson-Raybould ne peut pas, pour l'instant, expliquer pourquoi le directeur des poursuites pénales a décidé que SNC n'était pas admissible à un accord de réparation. Là est le nœud de l'affaire. Pourquoi? Autant l'indépendance judiciaire est non négociable, autant il m'apparaît impossible de séparer à 100% la politique de cas comme celui de Siemens ou de SNC-Lavalin. Que Justin Trudeau rappelle qu'il est député de Papineau et insiste pour qu'une solution soit trouvée sans menace ni imposition, est-il un accroc grave? C'est une question de primauté du droit, mais aussi d'intelligence et de doigté dont le gouvernement a manqué. Mais verser des millions, voire des milliards en réparation ferait plus mal à SNC-Lavalin que les sentences bonbons données aux ex-patrons qui ont supervisé la corruption. Résumons. Justin ne va pas démissionner, pas à 7 mois des élections, désolé. Mais comment se fait-il qu'on déchire nos chemises quand Rona ou Saint-Hubert sont vendus, mais que l'avenir de SNC-Lavalin au Québec semble moins important que de voir Justin se casser le cou? Nouvelle intrigante que rapporte Patrick Bellerose. Dossier de l'immigration au Québec, des pirates informatiques essaient de manipuler l'opinion publique. Une opération de manipulation de l'opinion publique impliquant des comptes Twitter automatisés, des chaînes de lettres envoyées aux députés, a été orchestrée par des pirates informatiques contre la réforme de l'immigration du gouvernement Legault. Depuis le dépôt du projet de loi 9, un réseau de centaines de comptes Twitter automatisés publie compulsivement des messages pour dénoncer la volonté du gouvernement Legault d'annuler les 18 000 dossiers d'immigrants toujours en attente d'une réponse du Québec. Ces robots retweetent également les messages des opposants afin d'amplifier le mouvement de contestation en ligne. Tous les comptes répertoriés semblent provenir d'Iran, bien qu'ils puissent être contrôlés à distance grâce à un RPV. La plupart ont été créés après le dépôt de la réforme, tandis que les autres n'affichent aucun message publié avant le dépôt du projet de loi. Ces comptes relaient des dizaines de tweets à l'heure. Bien entendu, des milliers de vies sont réellement affectées par la volonté du gouvernement Legault d'annuler les dossiers des candidats à l'immigration. Toutefois, ces faux comptes répercutent les critiques des opposants, dont les adversaires politiques, afin de leur donner une plus grande résonance. Le texte se conclut quand on explique le mécanisme, mais ça coûte vraiment pas cher. Il y a des agences en Russie et en Iran qui vous font ça pour entre 50 et 1000 $. Tout ça pour finalement faire dévier le débat démocratique. Alors ne vous fiez pas à Facebook ni à Twitter pour prendre vos décisions.
Et je pareil.
Placard, c'est fucké pareil.
Et on attaque la presse régionale en commençant par saluer Maryse Fournier. Qui est Maryse Fournier, me direz-vous? Bien, Maryse Fournier, ou plutôt la sergente détective Maryse Fournier, est une policière qui prend sa retraite et elle est la toute première femme à prendre sa retraite du service de police de la ville de Sherbrooke. C'est ce genre de petit événement qui vous porte à croire que le monde change, que la société évolue. Donc, on en est rendu là. Voilà. Alors, bonne retraite, Madame Fournier. J'attaque tout de suite l'autre dossier. Là, écoutez, honnêtement, j'étais en colère quand j'ai lu les deux textes que je vais vous lire maintenant. Et bon, il y a une bonne partie du vocabulaire qui est inclus, qui n'est pas de moi. Le quotidien, donc, Anne-Marie Gravel. Un jeune joueur de hockey noir, victime de racisme à Jonquière. Moi, je fais pas de passe à ce noir-là. C'est un joueur en marde pis de marde. Même s'il n'a pas encore célébré ses 11 ans, Malik, jeune joueur de hockey de Jonquière, a déjà vécu un épisode de racisme de la part d'un coéquipier. L'événement dont a été victime Jonathan Ismaël Diaby, joueur des Marquis de Jonquière, a résonné chez la mère du garçon qui souhaite que le racisme soit dénoncé, peu importe le niveau du sport. Stéphanie Girard en a assez du racisme. Chaque semaine, malgré les interventions, son garçon est comparé à du caca à l'école. Il a même été insulté par un joueur d'une de ses équipes de hockey. Ça se passe aussi chez les plus petits. Je suis surprise de voir comment les jeunes utilisent les différences pour faire de la peine aux autres. Peut-on évoluer? Choisir d'autres manières de s'exprimer? Lorsqu'il y a des chicanes d'enfants, je ne m'en mêle pas. Mais là, c'est trop. Je veux protéger mon enfant. Ça me gruge en dedans. J'y pense tous les jours. Je me demande ce que je peux faire pour l'aider. La maman souhaite que le racisme soit dénoncé dans le monde du hockey. Ce n'est pas uniquement pour la Ligue nord-américaine de hockey et la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il faut que tout le monde se soutienne. C'est la grande famille du hockey, peu importe le niveau. Je souhaite que le hockey mineur emboîte le pas, qu'il affirme que le racisme, c'est non, que ce n'est pas toléré. Je suis certaine que la nouvelle organisation de hockey mineur à Saguenay travaille pour le changement. Je sens que les gens veulent aider. Ils ont ce problème à cœur. Mais dans le monde du hockey, c'est difficile. Les enfants sont étiquetés et c'est aussi difficile avec les parents. Enseignante, Stéphanie Girard est témoin du racisme et de l'intimidation chez les jeunes. Elle assure toutefois avoir pleine confiance en la direction de l'école de son fils. Évidemment, Malik, qui est en quatrième année du primaire, ne se sent pas bien quand il est la cible d'insultes et de moqueries. Son truc est de demeurer patient. Dans ce temps-là, je vais jouer avec d'autres amis. Je me calme et s'ils n'arrêtent pas, je les ignore. Moi, je ne me sens pas bien quand je me fais dire des choses comme ça. Je vais le dire et ce sont eux qui ont les conséquences, pas moi. Je dénonce, mais pas toujours. Parfois, je pars. Incident isolé, pensez-vous? Oh que non. Audrey Tremblay, le Nouvelliste. Un jeune autochtone de Latuc se fait traiter de kawish durant un match. Je me suis senti tellement triste. J'avais de la rage en dedans de moi. C'était aussi une grande déception. J'ai eu le goût de partir et de ne plus rejouer au hockey. J'étais démotivé. Yann Maverick-Kittich est un jeune joueur de hockey de 14 ans. L'Atikamekw qui évolue pour les Loups de Latuc s'est fait insulter par des jeunes, des parents et un entraîneur de hockey parce qu'il est d'origine autochtone. On l'aurait traité de « Chris de Kawish » à plusieurs reprises et lui aurait demandé de retourner dans sa réserve lors d'un match de Bantam B à l'aréna Jean-Guy Talbot du secteur Cap de la Madeleine le week-end dernier. Il avait les larmes aux yeux quand il est arrivé. Il avait le moral à terre, soutient Maylen Vesigno, la mère de Yann Maverick, qui n'en revient toujours pas. Elle déplore haut et fort la situation. Elle a accepté de témoigner de la situation pour faire avancer les choses et faire réfléchir. On est en 2019. Cet entraîneur-là n'a pas évolué. Il est censé montrer l'exemple. J'étais fâché, moi aussi. C'était inacceptable. Moi, je dis à mon gars de jouer pour s'amuser et non pour gagner tout le temps. C'était rendu 2-0 et c'est à ce moment-là qu'ils auraient commencé à le traiter de cowish, note-t-elle. Une histoire de mise en échec serait à l'origine des propos racistes. Le jeune hockeyeur aurait même pris le temps d'avertir l'officiel de la rencontre, sans succès, a-t-il expliqué au Nouvelliste. J'ai demandé à l'arbitre s'il avait entendu ce qu'on m'avait dit. L'arbitre m'a dit qu'il allait régler ça, mais il n'a rien fait. Il ne s'en est pas occupé. Il n'est pas venu voir mon coach non plus. Il y a un de nos entraîneurs qui a pris ma défense, soutient le jeune hockeyeur de 14 ans. J'étais plus que triste. J'en ai perdu mon sang-froid, ajoute-t-il. C'est qu'un joueur en particulier l'aurait harcelé dès le début du match. En troisième période, le jeune Atikamekw s'est défendu lui-même en le plaquant, un geste qui lui a valu une expulsion et une suspension de 2 matchs. C'est là que la pluie d'insultes aurait pris de l'ampleur. « Donc, Chris de Kawish ne lâche pas mes joueurs », aurait lancé entre autres un entraîneur de l'équipe adverse. La sœur du hockeyeur était dans les gradins, elle a vu la scène sans comprendre ce qui se disait sur la glace, mais elle a vu que son frère était très bouleversé, assez pour aller le rejoindre directement dans les vestiaires. « Mon frère n'est pas violent, c'est un gentil garçon. Je suis allé le rejoindre. Il était en crise et il se questionnait. Il ne comprenait pas pourquoi on l'insultait par rapport à son identité. Il était bouleversé et il a fallu beaucoup de temps avant qu'il retrouve son sourire cette journée-là », raconte sa sœur. Alors voilà, est-ce qu'il y a des parents qui méritent leurs enfants? C'est la question qu'on se pose parce qu'on leur enseigne actuellement la haine et la détestation. Allez, qu'est-ce qu'il y a de plus canadien, en tout cas de canadien anglais, que la statue de Johnny McDonald? Eh bien, sachez que la presse canadienne nous dit qu'à Victoria, on s'interroge sur l'avenir d'une statue de Johnny McDonald. La ville de Victoria et les Premières Nations locales réfléchissent à ce qu'il adviendra d'une statue de Sir Johnny McDonald, qui était incidemment l'idole de Stephen Harper. La statue du premier ministre du Canada, député de Victoria de 1878 à 1882, a été retirée de l'hôtel de ville de Victoria en août. Pour certains observateurs, M. McDonald n'est pas digne d'être représenté devant l'hôtel de ville puisqu'il était chef du gouvernement fédéral lorsqu'a été promulguée la loi sur les Indiens et mis en place le système des pensionnats. La mairesse de Victoria, Lisa Helps, a indiqué que la municipalité amorcera des discussions au cours des prochains mois en mettant l'accent sur les leçons à tirer de la réconciliation. Ces discussions pourraient aussi permettre de déterminer le meilleur endroit pour installer la statue. Une décision à ce sujet ne sera prise qu'à la fin des discussions, selon Mme Helps. La statue pourra être donnée, même cette solution pourrait être compliquée à exécuter. À l'origine, la statue de Johnny McDonald avait été un cadeau offert à la ville de Victoria. La mairesse souhaite que les politiciens de la région, les Premières Nations Salish du littoral et la population réfléchissent à la manière d'expliquer le contexte du règne de M. McDonald en s'assurant que l'histoire soit élargie et non occultée. La municipalité veut aussi entendre les opinions des membres des Premières Nations et de la collectivité locale. Alors, Québec parle beaucoup d'un éventuel troisième lien au-dessus du fleuve Saint-Laurent, mais on aurait de la difficulté avec la deuxième à l'heure où on se parle, Baptiste Ricard Châtelain dans les pages du Soleil. La chaussée du pont Pierre-Laporte à refaire au complet. Les matériaux utilisés lors de la réparation complète de la chaussée du pont Pierre-Laporte en 2014 ne tiennent pas. L'asphalte s'enlève par grandes plaques. Le ministère des Transports du Québec devra tout refaire. On prépare un remplacement complet de l'enrobé à moyen terme, déclare un porte-parole du MTQ, Guillaume Paradis, en entrevue avec Le Soleil. On a commencé la préparation de ce projet-là et on a vraiment l'intention d'utiliser des matériaux qui sont plus performants. Les opérations de rapiessage se poursuivront d'ici là puisque le bitume est brisé. Il est victime d'un phénomène de pelade et s'enlève par morceaux de taille importante. On a des problèmes avec cet enrobé-là et on doit intervenir de façon régulière pour corriger le tout, surtout durant l'hiver et au printemps, quand la météo est particulièrement rude avec la structure suspendue au-dessus du fleuve Saint-Laurent. On a remarqué qu'on doit intervenir plus fréquemment sur le pont Pierre-Laporte que sur des ponts qui sont à proximité et qui ont exactement le même débit de circulation. En cause, les travaux réalisés il y a quelques années. Le matériau posé entre la dalle du pont et l'asphalte en 2014 n'était pas adapté à cette surface qui n'est pas plane, semble-t-il. Les membranes traditionnelles qu'on utilise sur des ponts pour l'étanchéité adhèrent vraiment moins bien sur le pont Pierre-Laporte. Les membranes usuelles ne fonctionnent pas. Résultat, le bitume posé par-dessus se décolle. En plus, précise Guillaume Paradis, les ingénieurs évaluent que le pont Pierre-Laporte ne peut supporter plus qu'une couche de 5 cm d'asphalte, ce qui est relativement mince pour une structure qui a un débit de circulation aussi important. Nouvelle environnementale encore, Myriam Gauthier dans Le Quotidien nous parle de l'eau potable et des îles de la Madeleine. Île de la Madeleine, les réserves d'eau potable diminueront. L'érosion des berges qui menacent les îles de la Madeleine n'est pas le seul impact des changements climatiques auxquels devront faire face les Madelinos. Les ressources en eau potable sont également appelées à diminuer. La montée du niveau des océans combinée à l'érosion des berges augmentera l'intrusion d'eau salée dans le sol des îles de la Madeleine, un phénomène mondial lié au changement climatique qui affecte les territoires insulaires et qui touche également les territoires côtiers, explique Alexandre Bénard, finissant du baccalauréat en géologie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Dans le cadre de son projet de fin d'études, l'étudiant originaire des îles de la Madeleine s'intéresse à l'impact qu'auront les changements climatiques au courant des 100 prochaines années sur les ressources en eau potable de cet archipel du golfe Saint-Laurent. En l'absence de rivières et de lacs sur la douzaine d'îles que compte l'archipel, la seule alimentation en eau potable possible pour la population et les nombreux touristes qui visitent les îles de la Madeleine passe par les nappes d'eau souterraines alimentées par les précipitations. En dessous de la nappe d'eau potable, il y a de l'eau salée, donc plus le niveau de la mer va monter, plus cette interface, la limite entre l'eau salée et l'eau douce, va monter. Si l'interface entre les deux eaux monte, évidemment, on a de moins en moins d'eau douce, souligne l'étudiant lors d'un entretien avec Le Quotidien en compagnie de Romain Chenot, professeur en sciences de la Terre et en génie civil à l'UQAC, qui lui a proposé ce projet de recherche en hydrogéologie. Un mot en concluant ce volet de l'émission pour vous parler d'un texte de Marie-France Letourneau dans La Voix de l'Est. Apprendre en cuisinant grâce à la brigade culinaire. L'enseignante Karine Desmarais a trouvé une façon originale de pimenter ses cours de français. À 24 reprises durant l'année scolaire, elle déménage sa salle de classe dans une cuisine de l'école secondaire Hauteville où ses élèves enfilent un tablier, rejoignent leur brigade et se mettent au fourneau. Mine de rien, les élèves font l'acquisition de notions qui débordent largement le français. Apprendre à lire une recette, on pense que c'est instinctif, mais pas du tout. Lire la recette et mesurer les ingrédients, c'est un apprentissage. Voilà une façon agréable d'apprendre et nutritive. Une dernière pause derrière les nouvelles culturelles.
se noyer le matin. Je vois des lunes artificielles dans les vapeurs de diesel. Et je vois 100 000 toits, oui, mais un seul fait pour toi et moi.
La ville est là.
Merci Mathieu. Dans les pages du Journal de Montréal, on trouve une information sur le retour de Lara Fabian, donc l'agence QMI qui rapporte Lara Fabian présente Papillon sur scène. Après s'être installée au sommet des ventes au Québec grâce à son plus récent effort intitulé Papillon, Lara Fabian a interprété les compositions de cet album à l'Impérial jeudi soir à Montréal. Coach de la voix pour une deuxième année à TVA, la chanteuse s'est levée et a pris d'assaut la scène, donnant vie à un disque comprenant entre autres la pièce-titre ainsi que les extraits « Je suis à toi » et « Par amour ». Le clip de cette dernière œuvre sera d'ailleurs dévoilé lundi. Papillon est le deuxième opus en moins de 18 mois pour l'artiste qui effectue un retour en français cette année. En octobre 2017, elle a offert « Camouflage », une proposition anglophone. Lara Fabian parcourra le monde dès l'automne. À compter du 16 septembre, s'amorcera à New York sa tournée 50, soulignant ses 50 ans qu'elle fêtera le 9 janvier 2020. La Belge a de nombreux rendez-vous avec ses admirateurs américains, mais aussi européens. On s'en est pas aperçu, ça a passé très très vite, là, mais Kent Nagano écoule actuellement la dernière année de son contrat avec l'OSM. Il n'est pas question de l'échanger, donc. OSM, Kent Nagano au lutrin d'une ultime saison. Un texte de Yann Lauzon dans le Journal de Montréal. La 86e saison de l'Orchestre symphonique de Montréal, l'OSM, sera la dernière de Kent Nagano comme directeur musical. Le maestro tirera officiellement sa révérence en août 2020 après avoir occupé ce poste pendant 14 ans. En paix avec sa décision, le chef a par contre la ferme intention de développer des projets spéciaux avec l'OSM, a-t-il confié à l'agence QMI jeudi lors du dévoilement de la dernière programmation portant son sceau. Si on a une chance comme ça, c'est irresponsable. C'est un manque de respect de faire une rupture, a-t-il dit. Ça va continuer. J'ai beaucoup de projets assez importants dans les prochains 4 ou 5 ans avec l'orchestre. Il ne s'agit donc pas de véritables adieux. Dans un certain sens, je ne suis pas obligé de dire au revoir au Québec. Notre amitié, notre contact vont continuer, a-t-il assuré. Mais avant de penser à l'avenir, Kent Nagano doit se concentrer sur son ultime saison, dont le coup d'envoi sera donné les 17 et 18 septembre prochains. Au total, plus de 100 rendez-vous musicaux sont prévus à Montréal. Le maestro a profité de la chance qui s'offrait une fois de plus à lui pour choisir des œuvres de quelques-uns de ses compositeurs préférés, dont Olivier Messiaen, Bach, Bruckner et Mahler. C'est d'ailleurs la symphonie numéro 2, dite « Résurrection » de Mahler, qui viendra clore son passage à titre de directeur artistique de l'OSM au début de juin 2020. Cette saison sera aussi synonyme d'innovation car le classique se mariera à la mode grâce à musique, mode et mouvement développée avec Marie-Saint-Pierre. Devant les musiciens défileront donc des mannequins parés de nouvelles créations de la designer québécoise. À l'approche d'un nouveau chapitre de sa carrière, Kent Nagano n'a aucun regret concernant son implication au sein de l'OSM, précisant avoir été grandement inspiré par la culture québécoise. D'être ici et de recevoir toute cette stimulation, ça a été un grand cadeau. On a depuis très longtemps dépassé les attentes, pas seulement moi, mais la communauté du Québec. On peut être tellement fiers. Nous avons réussi à créer un modèle d'institution symphonique du 21e siècle qui est vraiment pertinent. Malgré tout, le chef a une grande déception liée à Montréal. J'ai un seul et énorme regret. Je suis tombé amoureux du Canadien et j'ai été passionné pendant 16 ans pour le retour de la Coupe Stanley. Je ne l'ai pas encore vu ici à Montréal. J'ai attendu, mais il ne faut pas fermer la porte. Alors, ça me désole de vous dire ça, M. Nagano, mais j'ai bien peur que votre contrat finisse avant. Intéressant documentaire dont nous parle Caroline Monpetit dans la presse, La fin des terres. Oubliez le passé. Il faut dire tout de suite que le jeune cinéaste de 25 ans s'exprime par la forme autant que par le fond, et on parle ici de Loïc Darce. Pour son premier long métrage, Loïc Darce ne s'est pas attaqué à un mince sujet. Il propose une méditation sur l'implication politique des jeunes en général et sur le projet d'indépendance du Québec. Et il le fait à travers les voix de 17 participants qui, comme lui, n'ont jamais vraiment vécu de référendum. Un de mes points de départ, c'était de faire un film sur la question nationale, sur l'avenir politique du Québec, sans images d'archives, et en ne voyant pas les gens qui sont interrogés, dit-il en entrevue quelques jours avant la projection de son film au rendez-vous Québec Cinéma. Refuser d'intégrer des images d'archives à son propos, c'était une façon de refuser de faire de l'indépendance du Québec une affaire de passé, bercée par les souvenirs euphoriques du Centre Paul Sauvé le jour de l'élection du PQ en 76, ou encore assombrie par le discours de Jacques Parizeau après la défaite de 1995. D'ailleurs, en 1995, Loïc Darce avait 2 ans. L'idée du film, c'est un peu de parler de cette idée-là au présent. C'est un peu un essai de s'émanciper de ce passé-là. Quant aux participants, ils ne sont pas présentés sur la trame sonore, bien qu'on puisse voir défiler leurs noms au générique. Loïc Darce les a choisis parce que leurs écrits ou leurs interventions publiques l'avaient interpellé. Mes choix politiques ont influencé le choix des participants, dit-il, mais ils ne voulaient pas que leur notoriété ni même leur image ne viennent troubler l'écoute de leurs propos. Loïc Darce les a rencontrés un à un et a projeté en eux ses interrogations. Ce sujet de la question nationale m'a toujours fasciné et appelé, à une époque où cet appel n'est pas facile, dit-il. Cet intérêt était chez lui instinctif. Une des questions qu'on se pose est « D'où je viens? Qui suis-je? » Le film de Loïc Darce se décline en 3 volets, le questionnement, l'impasse et la réappropriation. On dirait qu'il y a quelque chose qui a du mal à mourir et quelque chose qui a du mal à naître, dira une participante au sujet de la question nationale au Québec. À travers la caméra, le Québec devient donc un espace à habiter, à conquérir. Une autre dit que son attachement au Québec est plus ancré dans le territoire que dans l'identité. Or, ce territoire fait intrinsèquement partie de la culture autochtone. Il n'y a pas 2 solitudes au Québec, mais 3, dit une participante. C'est sans parler de l'immigration. On ne peut d'ailleurs plus parler d'une seule identité québécoise, poursuit le cinéaste en entrevue. L'identité est multiple, précise-t-il. Elle ne peut plus se fonder sur un seul point de vue, un seul bagage historique. On se doutait que le phénomène prend de l'ampleur, mais peut-être pas à ce point-là. Le streaming constitue 75% des revenus de la musique aux États-Unis. C'est ce que rapporte l'agence France-Presse. L'écoute en ligne a représenté en 2018 75% du chiffre d'affaires de l'industrie de la musique aux États-Unis, qui a atteint 9,8 milliards de dollars, en hausse de 12% selon des données publiées par l'Association de l'industrie du disque, la RIAA. La proportion du streaming dans les revenus de l'industrie musicale n'était que de 65% en 2017 et 52% en 2016. Le RIAA inclut dans la catégorie streaming les plateformes payantes et gratuites, y compris les sites vidéo comme YouTube, ainsi que les radios numériques. Toujours selon l'association, le nombre d'abonnements payants franchit fin 2018 le seuil des 50 millions à 50,2 millions d'abonnés, effectuant un saut de 42% en un an. En trois ans seulement, entre la fin 2015 et fin 2018, le nombre d'abonnés payants des services de musique en ligne a quintuplé. Les abonnements payants représentent 63% des revenus tirés du streaming et près de la moitié du chiffre d'affaires de l'industrie musicale aux États-Unis, 47%. Un autre film dont nous parle François Lévesque, en fait c'est une critique et il colle 4 étoiles au film, ça s'annonce donc très intéressant, « Les oiseaux de passage, narcotrafic voyou ». Le titre « Les oiseaux de passage » évoque d'emblée des images aviaires romantiques entre volatiles multicolores et volées migratoires. Le film donne certes à voir certaines espèces, mais il s'agit néanmoins là d'une désignation métaphorique. En effet, ici, ceux qui ne font que passer sont des humains. Membres de 2 clans colombiens issus du peuple Wayuu, ils s'associent au cours des années 60 et 70 dans un lucratif trafic de stupéfiants pour mieux s'entretuer par la suite, avec en toile de fond des croyances séculaires auxquelles l'une et l'autre faction tournent graduellement le dos. Est-ce là ce qui précipite leur perte? La trame shakespearienne imaginée par Cristina Gallego et Ciro Guerra, véritable tragédie en 5 actes, est plus complexe que cela. Dévoilé à Cannes en 2015, « L'étreinte du serpent », qui est un autre film du même réalisateur, raconte l'épopée amazonienne d'un ethnographe allemand en 1909, puis celle 30 ans après d'un botaniste américain, chacun accompagné par un chaman ayant peut-être oublié les enseignements de ses ancêtres. En filigrane, le film déplore les ravages de la colonisation. Or, ce thème est prévalent dans le film que critique François Lévesque et il conclut « Si en apparence le scénario joue de rouages connus, voire le parrain, Scarface ou Narcos, le film se distingue par son utilisation fascinante des us et coutumes moyaux. Ceci expliquant cela, le personnage clé du film, en définitive, n'est ni Rapayette ni Hannibal, mais Ursula, la mère chamane d'une des protagonistes. Même lorsqu'elle n'est pas à l'image, sa présence plane, à l'instar des oiseaux dans les cieux qui lui inspirent des augures et présages. Les oiseaux de passage, donc, est présenté en version originale, sous-titrée français. C'est une chronique de Cristina Gallego et Ciro Guerra.
Une danseuse hawaïenne mal faite pis une petite couette de cheveux de bébé. Je croise plein de minivans, cercueils remplis d'humains qui en arrachent à obéir aux doigts dans l'œil d'un beau complet veston cravache. Hey, tout au bout du tunnel, y'a un gros M jaune qui brille. Allez donc tout manger de la marde de clown en famille. Je me lève avant l'hymne national, sors du motel, là y'a les ressuites. Rien dans les poches, pas comme une balle, avec mon bonheur intérieur brut. Le smile au vent, le feu au cul, je fonce sans regarder derrière. Le soir, je me grise d'où je suis rendu, mais j'oublie jamais ma prière. Bon Dieu, dites aux yarbes qui me mettent plus les pieds dans la bouche. Bon Dieu, slaquez le corbe. Bon Dieu, dites aux yarbes qui me mettent plus les pieds dans la bouche. Bon Dieu, slaquez le corbe. Votre cochon se couche. 16 ans, sans un gros sous-taille fine, fiancée, veuve ou orpheline. J'ai fait mille fois le tour de la piste, j'sais toujours pas comment qu'on résiste à la pulpe rose d'une lèvre riante, ni au duvet blond d'une cuisse impatiente. Ben oui, mon corps butine, ben oui, mon esprit bottine. J'ai déjà eu le kick pour une bonne sœur. J'ai une grosse, grosse, grosse capote sur le cœur. Pourquoi l'amour s'en va? Moi, je donne ma langue au chat. Pourquoi l'amour éclate? Moi, je donne ma langue au chat. Bon, yeux, dites aux yards qui mettent plus les pieds dans la bouche. Bon, yeux, slack et le corbe. Bon, yeux, dites aux yards qui mettent les pieds dans la bouche, bon, you're slack et le corbe. Votre cochon se couche! De la feuille d'érable. Mon frère parle tout le temps de lui, il va finir par se fouler le nombril. Ma soeur de temps en temps joue du canif sur mon aorte. Si t'avais pas sacré ton camp, maman serait peut-être pas morte. Ah, la liberté, ça les écoeure. Ça fait qu'ils me rangent dans leur petite case. On sait bien pour toi le bonheur. C'est une signale blonde, pis une tank de gaz. Moi, je revire de bord. Je leur souhaite joyeuse fête. Viendrai faire un tour dehors, mais qu'ils fassent des portes larges comme vos têtes. Bon yeux, dites aux yards qui mettent plus les pieds dans la bouche. Bon yeux, slack et le corbe. Bon yeux, dites aux yards qui mettent plus les pieds dans la bouche. Bon yeux, slack et le corbe. Votre cochon se couche. Les objets dans le miroir sont plus près qu'ils ne paraissent. Où c'est faut j'aille pour plus voir les flashbacks qui me collent aux fesses. Sur le dash, la danseuse a peur qu'un beau jour je perde les pédales. Mes cassettes, c'est des répondeurs pour quand j'ai le goût que quelqu'un me parle. Reste la couette de cheveux du petit gars, vu rien qu'une fois dans un berceau. Quelque part au fond de l'Arizona, je suis parti en peur, les yeux dans l'eau. Attention à nos enfants, ça pourrait être le vôtre. Quand je lis ça, je me dis tout le temps qu'à part lui, j'en ai peut-être d'autres. Ça va être beau à mes funérailles, grand défilé de crocodiles. Me semblait voir tout le qui broye en trois versements faciles. La pancarte verte dit fin de la route, mais tant qu'à moi on s'en sac. M'en va foncer coûte que coûte, je veux voir ce qu'il y a de l'autre bord du cul-de-sac. Bon yeux, c'est tout yarbe qui mette plus les pieds dans la bouche. Bon yeux, slack et le corbe. Votre cochon se couche. Bon yeux, c'est tout yarbe qui mette plus les pieds dans la bouche. Bon yeux, slack et le corbe. Votre cochon se couche.
Votre cochon se couche, Émile Broucloutier.
Merci Mathieu, et on a encore le temps pour une toute petite salade de nouvelles diverses. Je commence en vous signalant que la police de Sherbrooke cherche vraisemblablement à l'heure où on se parle un voleur ajouté de tremblements et présentant des difficultés majeures à dormir, puisqu'un vol de 80 000 $ a été commis à l'entreprise Café Victoria. Un camion chargé de café est ainsi disparu. Voilà. On continue en vous parlant de bière américaine. Et là, il y a des choses qui sont sacrées et qu'on ne respecte plus. Écoutez, il y a du glyphosate dans la bière américaine. On en a détecté. Le glyphosate, pour ceux d'entre vous qui ne suivent pas les dérivés Monsanto, c'est du Roundup, finalement. Alors, on a trouvé des traces de glyphosate et il est probable qu'on en trouverait aussi au Canada si on se donnait la peine de chercher. Voilà. Une autre nouvelle inquiétante, celle-là. Philippe Melbourne Dufour nous parle d'une grand-mère qui doit être secourue alors qu'elle part à la dérive sur un morceau de glace. Eh oui, alors qu'elle explorait l'Islande avec son fils adulte, une grand-mère du Texas a eu toute une frousse après que le bout d'iceberg échoué sur lequel elle se tenait pour une photo fut emporté par les vagues. C'est la petite fille de la naufragée qui a relaté l'incident à Now Guide to Iceland, un site de nouvelles islandais. « Ma famille a toujours adoré les voyages, ça ne m'étonne pas qu'ils aient choisi l'Islande », Après avoir aperçu plusieurs personnes s'asseoir sur un bout de glace échoué qui ressemblait à un trône, la dame d'un certain âge a eu le goût de les imiter. Malheureusement pour la grand-maman, peu de temps après, elle se retrouva à la dérive sur son navire glacé à cause d'une vague puissante qui aurait délogé la structure glaciale. Elle a immédiatement commencé à gagner le large. Force du hasard, un Américain ayant travaillé pour la garde côtière des États-Unis se trouvait non loin et s'est rapidement lancé dans l'eau pour aller chercher le bout d'iceberg avant qu'il ne s'éloigne trop. La mère et le fils ont eu bien peur, mais heureusement, personne n'a été blessé et le duo a pu profiter du reste de ses vacances. Bon, alors, on a beaucoup parlé d'environnement pendant cette émission et il y a une question qu'on n'aborde jamais, c'est-à-dire, on sait que la planète se réchauffe, on sait qu'on s'en va dans un mur, on sait que ça va empirer. Alors, pourquoi on fait rien? Isabelle Paris s'est posé la même question. Le bug humain ou l'os dans la soupe? Cherchez l'erreur. On calcule avec une précision inouïe ce qui se dessine à l'horizon climatique et le degré au-delà duquel la météo partira en vrille. On peut cocher sur un calendrier la date précise dans l'année, le 1er août, où l'humanité paye à crédit les ressources de la planète. Les écrans nous bombardent d'images de forêts calcinées et de villes englouties par de monstrueux ouragans. L'alerte incendie résonne dans le tapis. Comment expliquer l'inaction du commun des mortels devant l'urgence planétaire? Philosophes et psychologues se perdent en conjectures depuis des années sur les sources de ce déni collectif. Or, une partie de la réponse se trouve peut-être blottie dans un recoin de notre cerveau, un modèle rétro, hyper performant, mais visiblement dépassé par le cours des événements. C'est du moins ce qu'avance Sébastien Boller, neuroscientifique rompu à l'étude des mécanismes du cerveau qui vient de produire le bug humain. Car selon lui, bug il y a sous l'occiput. Un bug qui permet à notre cerveau, programmé sur mesure pour survivre, de rester peinard devant le compte à rebours planétaire, bref, de supporter cet état de quasi-schizophrénie. Comme neuroscientifique, je trouve le cerveau et les mécanismes de la pensée fantastiques. Mais je me suis demandé aussi pourquoi nous ne bougeons pas devant l'urgence climatique que nous vivons. Tout le monde se pose la même question, ajoute Boller. La réponse se trouve peut-être dans une petite prune enfouie quelque part dans les circonvolutions du cerveau humain, ajoute-t-il. Selon Boller, le fameux bug se terre dans le striatum, un cerveau primitif logé tout près de l'amygdale qui s'est développé il y a plus de 140 millions d'années chez les premiers vertébrés. Son rôle, assurer la survie de l'espèce à tout prix, en injectant des doses massives de dopamine quand l'animal pose cinq actions simples. Comme une usine, ce striatum primitif produit du plaisir à l'appel quand l'animal mange, se reproduit, épargne son énergie, grimpe dans la hiérarchie sociale ou cumule des informations essentielles. Autant d'actions cruciales pour sa survie. Grâce à sa spectaculaire efficacité, ce mécanisme s'est transmis, sélection naturelle oblige, à tous les mammifères, y compris à l'espèce humaine, explique Boller. Le hic, c'est que même si l'humain n'a guère plus besoin d'affronter le mammouth et d'entretenir 23 concubines pour assurer sa descendance, son cerveau continue de carburer à la dopamine. À voir aller certains politiques et les Weinstein de ce monde, on avait déjà compris que certains sapiens ont le cerveau primitif plus développé que d'autres. Mais sommes-nous tous vraiment au service de ce striatum surpuissant? Ce striatum créé il y a des millions d'années, nous en avons hérité, et il continue de récompenser les mêmes comportements par une dose de dopamine pour s'assurer que les mêmes gènes seront passés à la génération suivante, explique Boller. Du premier vertébré jusqu'à l'hominidé, le cerveau a littéralement explosé. L'humain héritant aujourd'hui d'un cortex rebondi, supra-intelligent, qui a permis sa croissance démographique exponentielle. L'Homo sapiens a inventé l'agriculture, pensé les systèmes d'écriture, découvert l'atome, créé des œuvres d'art et inventé des techniques médicales de pointe. Bref, ce capital de matière grise ne fait-il pas contrepoids à ce striatum quasi-jurassique? En fait, quand on regarde le cortex, siège de la raison et de l'intelligence, on constate qu'il est resté au service du striatum. Il y a donc un bug, car toutes les formes de plaisir nous ramènent encore aujourd'hui aux cinq pistons primaires renforcés par le striatum. En clair, le cortex propose, mais le striatum dispose, affirme l'auteur. rappelez probablement de cette nouvelle qui avait été diffusée par TVA en 2017, nouvelle à l'effet que près du chantier d'une mosquée dans l'ouest de Montréal, les femmes n'étaient pas admises à travailler. Ça s'était révélé être faux par la suite. Ça avait pris un sacré bout de temps avant qu'il y ait des démentis du côté de TVA. Alors le conseil de presse blâme sévèrement TVA, affirmant que son reportage et ceux qui ont suivi ont eu l'effet d'exacerber les tensions dans la société, en plus d'avoir eu un impact important sur la communauté musulmane. Le Conseil de presse du Québec blâme sévèrement TVA Nouvelles, le site web d'information TVA et sa journaliste pour un reportage intitulé « Non aux femmes sur le chantier de la mosquée » diffusé en décembre 2017. Mentionnons ici que TVA n'étant pas membre du Conseil de presse, on se fout éperdument effectivement des sanctions que le dit Conseil peut prononcer. Il me reste quelques dizaines de secondes pour remercier Mathieu Tessier de la mise en onde et des choix musicaux, particulièrement de la dernière pièce. Voilà. Je vous remercie surtout d'avoir été là avec moi tout au long de la semaine. Ce micro reviendra donc à sa titulaire, oui, dès lundi, puisque Hélène Denis sera de retour. Merci.